Radio Pleine Lune 93,8 MHz sur Rond de Femmes, Radio Zone. Ce soir, dans Cause Toujours, tu m'intéresses, nous vous présentons le colloque organisé par le Collège du Travail sur le thème Travail domestique et familial. Colloque qui a commencé le mardi 15 mai à Genève avec la conférence de Hedwige Pimans-Poulet, conférence que nous vous reproduisons ce soir. Hedwige Pimans-Poulet, membre de l'Université des femmes de Bruxelles, a été chargée par la communauté européenne de réaliser une recherche parue déjà en 1984 sur le partage des responsabilités professionnelles, familiales et sociales entre les femmes et les hommes. Elle constate que le libre choix, entre guillemets, pour les femmes qui choisissent, si l'on peut appeler cela choisir, travailler à mi-temps ou travailler avec des aménagements d'horaire ou ne pas travailler, etc., ou rester au foyer ou aller travailler, tout ce libre choix se vide progressivement de son sens puisque le choix des femmes sera désormais de n'avoir pas à renoncer à un ou plusieurs aspects de leur vie. Elle montre aussi que les aménagements spécifiques adressés particulièrement aux femmes et encore plus particulièrement aux mères augmentent la discrimination plutôt que de tendre vers l'égalité. Elle précise aussi que si on peut parler de différence entre femmes et hommes, si on peut dire que cette différence est porteuse de libération et de sens, cette libération n'a justement de sens qu'au moment où l'égalité sociale, politique et familiale est réellement obtenue. Conférence donc de Hedwige Pumans-Poulet, le partage des tâches, une enquête menée dans les pays de la CEE.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine, fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. Et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine. Ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime. Et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien.
Au point de départ, très curieusement, donc la commission des communautés, la communauté européenne, la commission des communautés s'intéresse aux femmes. Je ne vais pas vous refaire l'historique, il n'y a qu'un tout petit article du traité de Rome qui permettait de s'occuper de nous, c'était l'article 119 qui ne parlait que de l'égalité de rémunération. Et pour finir, à la suite d'un ensemble de, disons, d'un élargissement, cette égalité de rémunération a fini par englober presque le thème de l'égalité générale. De temps en temps, on nous dit, oui, mais ça, l'article 119 ne permet pas de que la communauté s'occupe de ça. Mais donc, l'égalité de rémunération a fini par entraîner le thème de l'égalité dans l'emploi, le thème de l'égalité dans les prestations sociales, le thème de l'égalité dans tous les domaines. Parce que pour finir, le salaire est un résultat d'un ensemble de situations sociales et le salaire discriminatoire dont les femmes sont victimes donc, est le résultat de leur situation sociale, de leur situation dans la société, et notamment par rapport à ce problème de l'égalité des, par rapport à ce problème du partage des tâches familiales. Or, il se fait que dans le programme d'action de la communauté pour la promotion de l'égalité des chances pour les femmes, en 82-85, il y avait un paragraphe qui disait qu'il fallait promouvoir, 82-85, qu'il fallait, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la vie, c'était intéressant que ce soit placé là-dedans, qu'il fallait promouvoir le partage des responsabilités professionnelles, familiales et sociales. Donc il s'agit bien de partage, d'une part, c'est-à-dire non pas de répartition. Nous avons vécu, disons, le système patriarcal, à mon sens, est un système qui répartit, c'est-à-dire les hommes font ça et les femmes font autre chose. Et dans ce système de répartition, les hommes gagnent leur vie et les femmes font le ménage gratuitement. Dans ce système-là, à mon avis, l'égalité sociale est à peu près... il est absolument impossible de la réaliser. Et le thème du partage indique plus exactement qu'il faut que chacune des responsabilités du citoyen, si je puis ainsi m'exprimer, de l'être humain dans la société civile, qu'elle doit être partagée également par l'homme et par la femme. Donc le mot partage, il faut y attacher de l'importance. Alors il s'agit de responsabilité. Ça indique bien qu'il y a des choses à faire, il y a un sentiment d'obligation. Et ces responsabilités, il y a trois termes, professionnel, donc le travail, familial, donc ce qui se passe à la maison, bien entendu, je n'ai pas besoin d'expliquer, et social. Social nous intéresse énormément aussi, parce qu'une des difficultés devant lesquelles nous nous trouvons pour l'instant, c'est que les femmes qui assument la double tâche du travail professionnel et familial, après ça, souvent, elles disent « ouf » et elles courent pour arriver à faire ces deux trucs-là, mais elles laissent l'ensemble de l'organisation de la société, au fond, dans les mains des décideurs hommes qui, eux, ne faisant pas le travail ménager, sont dans toutes les associations qui décident de politique de quartier ou de politique tout court. Donc, les trois termes sont très importants. Il ne s'agit pas pour nous de ne compter que deux termes et d'arriver à professionnel et familial, parce que ces deux termes-là ne sont pas suffisants. La décision se trouve dans le troisième terme, qui est le terme les responsabilités sociales. Alors, il y a tout le passage sur la justification de ce projet donc, de la communauté, et puis la description sur laquelle nous avons sauté, qui dit « Il est nécessaire de mener une réflexion en profondeur sur les moyens d'assurer une cohérence globale dans le domaine juridique, dans l'organisation du travail et de la société en général, en ayant vu notamment l'effet des technologies nouvelles et des tendances à l'aménagement du temps de travail, afin de permettre un meilleur partage des responsabilités familiales et par là même une part plus égalitaire des femmes dans le monde du travail et de la société. » Il y avait une petite transformation, mais le partage des responsabilités familiales paraissait être la condition de l'égalité de l'autre côté, ce qui nous ramenait plus près de nos problèmes d'égalité salariale. Et nous nous sommes dit, au fond, une étude sur le partage, il n'y a que des féministes qui peuvent le faire. Il n'y a donc que nous qui puissions prétendre à réaliser cette étude. Jusqu'à présent, les études commandées par la Commission, c'est presque toujours en milieu universitaire qu'elles tombent. Ou, bien entendu, surtout en Belgique, la pensée universitaire dans ce domaine-là est tout ce qu'il y a de plus traditionnel et réactionnaire. Nous n'avons pas d'études féministes dans les universités. Par conséquent, on pensait bien que ce serait assez catastrophique ce qui pourrait sortir de là. Et alors, nous avons courageusement fait une proposition de concourir à cette recherche, mais sans réellement en avoir les moyens, parce que maintenant, je vais vous révéler ce que c'est l'Université des femmes. C'est en fait un service d'éducation permanente. Nous sommes gentiment reconnus et subsidiés, mais de manière moyenne, avec cependant quelque chose de très généreux qui est la mise à notre disposition de chômeuses qui sont donc payées par le service du chômage, que nous ne devons donc... pas rémunérer nous-mêmes, mais toutes les intellectuelles de l'Université des femmes sont des femmes qui ont une activité professionnelle en dehors et qui font l'activité de l'Université des femmes bénévolement le soir ou le week-end. Donc, c'est vous dire que faire une recherche pour la Commission des communautés dans ces conditions-là était tout à fait problématique. Enfin, on s'est jeté à l'eau. Alors... ce qui a été le premier succès, c'est donc d'obtenir gain de cause à la communauté dans l'idée que seuls des féministes pouvaient traiter ce sujet-là et d'obtenir, à l'encontre de toutes les traditions, de donner ça à des universités, de nous le confier à nous, Université des femmes, qui paraissions quand même quelque chose d'un peu, inférieur du point de vue statut, pensée, recherche, etc. On a d'ailleurs eu très peur que nous n'ayons pas les moyens, que nous ne soyons pas capables et tout ça. On a été fort entourés de ce point de vue-là. Alors, La philosophie sous-jacente que nous avons développée, il a fallu la préciser très fort au point de départ. Et il fallait rentrer dans le thème de l'égalité juridique, il fallait rentrer bien entendu dans le thème, dans l'analyse qui sont les travaux habituels de la communauté. On a affaire à des décideurs qui sont des gouvernements des divers pays, donc il ne s'agit pas de faire des trucs... il faut que ça, que ça rentre dans l'ensemble du discours faisable par la Commission des communautés européennes. Il y avait, et c'était très concrètement, par exemple, le combat du point de vue du vocabulaire, je vous raconte ça parce que c'est assez amusant, d'une certaine façon. Moi, en tant que... Bon, je suis très mêlée au milieu syndical et je fais beaucoup de formations syndicales et nous revendiquions tout simplement la réduction du temps de travail. Mais ce mot-là, on ne pouvait pas l'employer, par exemple, parce que ça froissait les patrons. Les patrons voulaient qu'on parle d'aménagement du temps de travail. Donc, il y a tout un combat linguistique aussi qu'il est très utile d'apprendre quand on travaille dans un... Et comment il faut pervertir un peu un discours acceptable pour arriver à ses propres résultats. Bon, alors à part ça, le groupe de l'Université des femmes est plutôt des féministes de type social, c'est-à-dire que nous sommes quand même très préoccupés par tous les problèmes sociaux, économiques. Il y a eu un groupe qui a été plus préoccupé par des problèmes psychologiques et par des problèmes culturels, mais en fait, pour le moment, ce groupe n'y est plus, et c'est vrai que quand ils organisaient quelque chose, il y avait beaucoup de monde qui participait à ça. Donc il y a une tendance chez les féministes à être très préoccupées par les problèmes psy, mais le groupe qui a travaillé autour, qui est là maintenant à l'université, est beaucoup plus préoccupé par les problèmes d'égalité sociale. Alors, nous avons donc bien montré que notre projet était d'arriver, de trouver des solutions qui étaient pour arriver à plus d'égalité sociale d'une manière générale. Il y a une autre chose dont je suis tout à fait convaincue, il faut un peu remonter le courant. C'est vrai que la question du double travail des femmes est un problème tout à fait énorme. Par contre, malgré ça, nous sommes tout le temps obligés de dire aux femmes, et notamment aux femmes au foyer, les femmes ont aussi des obligations. C'est-à-dire que dans une société, dans un pays où l'ensemble de l'économie est très socialisée et des revenus très socialisés comme en Belgique, l'ensemble de la sécurité sociale, ce qui est redistribué à travers la sécurité sociale, ça fait à peu près 22-24% du revenu national. Donc c'est de l'argent, si vous voulez, qui provient du travail professionnel et qui est redistribué à travers l'assurance maladie invalidité, à travers le chômage, à travers les pensions, etc. Quand un pays a une masse de son revenu très importante qui est socialisée, et là-dedans je ne parle pas encore de l'enseignement, je ne parle pas des services publics, etc. Donc vous voyez que l'ensemble de ce dont bénéficie chaque personne, je considère qu'il faut redire aux femmes qu'elles doivent mettre, qu'elles ont une obligation à l'égard de ces bénéfices d'une société qui leur fournit tout ça. Or, le travail professionnel des femmes, elles cotisent complètement, et elles ont beaucoup moins de rendement de l'ensemble, leur revenu est beaucoup moins important, si je le compare. Enfin, les femmes au foyer reçoivent beaucoup plus pour des choses pour lesquelles elles ne cotisent pas du tout. Elles reçoivent des avantages, la pension de leur mari est majorée, elles reçoivent l'assurance maladie gratuitement, enfin des tas de choses comme ça. Donc, il est nécessaire de rappeler aux femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle qu'il y a quelqu'un qui met dans le pot commun tout cet argent qui va leur permettre d'avoir un certain nombre d'avantages sociaux. Donc, je considère moi qu'il y a une espèce d'élément d'obligation sociale dont nous pouvons discuter quelle est la forme qu'elle doit prendre, mais que je pense qu'il ne faut pas traiter les femmes comme des personnes qui doivent bénéficier de tout sans nécessairement se soucier de où vient la manne ou de où vient ce qui est redistribué. D'ailleurs, de toute façon, même du point de vue politique, du point de vue de la décision, du point de vue de l'utilisation de ces ressources, il est évident que pour avoir un mot à dire, il faut plutôt être parmi ceux qui amènent les ressources que d'être du côté de ceux qui simplement disent « donnez-moi plus, mais moi je ne mets rien dans le pot commun ». Vous comprenez que ça affaiblit de toute façon une position politique. Les inégalités entre hommes et femmes liées qui proviennent de l'inégale occupation du temps rémunéré et du temps de travail gratuit, est tout à fait considérable, chez nous aussi. Encore que j'ai vu dans votre brochure que vous aviez quand même un peu moins d'enfants déjà que nous, ce que je ne savais pas. Nous, on en est à 1,6 ou 1, je ne sais pas quoi. Vous, vous remontez de 1,2 à 1,3, je crois, pour le moment. Donc, la charge des enfants ne doit pas être terrible ici, à Genève, à moins qu'il n'y ait une très grande disparité selon les familles. Je veux dire, 1,2 enfants, c'est quand même... c'est encore faisable, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose de tout à fait terrible comme au début du siècle. Bon, alors il faut pas non plus, il faut quand même garder la tête froide. Mais par contre, auxquelles nous sommes assez opposés, si je puis dire, c'est de traiter d'une différence purement en termes de homme-femme, alors que les inégalités sont femmes mariées travaillant, donc il ne s'agit pas d'une inégalité de sexe, mais d'une inégalité surtout qui provient du statut matrimonial et de la responsabilité familiale des femmes. Donc il y a beaucoup moins d'inégalités entre un homme et une femme célibataire qui n'aurait pas de charge de famille, mais à partir du moment où il y a un père et une mère, alors là l'inégalité est majeure. Et vous connaissez bien les fameux principes, quand un homme et une femme se marient, l'homme gagne autant d'heures de temps libre que la femme en perd. Donc il y a immédiatement dans le mariage un transfert de temps au détriment de la femme, parce qu'elle se met non seulement à laver éventuellement les vêtements de son enfant 1,2, mais en même temps, puisque c'est dans la même machine, toute celle du mari aussi. Et la réciproque n'est pas vraie. Hein? Donc c'est pas le mari qui se dit, puisque je lave quand même mes vêtements vendredi, donne-moi les tiens. C'est toujours dans l'autre sens que ça va. Donc le problème, c'est qu'il y a un énorme transfert au moment du mariage qui est souvent lié, à mon avis, prétexté autour de l'enfant, parce que le décalage devient très important au moment où il y a des enfants, mais qui est un décalage entre l'homme et la femme mariés ou cohabitants, concubins de longue durée. Enfin, ça revient exactement au même, il n'y a pas de différence à ce point de vue-là. Ce qui fait que le résultat de cette inégalité du travail à la maison, qui est quand même, qu'il ne faut pas accepter telle qu'elle nécessairement, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une, à mon avis, d'un transfert entre adultes, surtout pour commencer, parfois prétexté par l'enfant, mais peut-être il faut voir si ce n'est pas autrement aussi, cette inégalité-là oblige la seule femme mariée ayant toutes ces charges que je viens de décrire à faire l'arbitrage entre son travail professionnel et son travail familial et domestique. Donc, arbitrer, ça veut dire je dois choisir si j'investis un peu plus dans mon travail professionnel ou si je fais plus à la maison, comment je vais résoudre ce problème, ce conflit de ces doubles tâches. Eh bien, l'injustice, c'est qu'il n'y a que la femme qui doit faire cet arbitrage-là. C'est que, normalement, nous pourrions nous attendre à ce que des adultes qui décident d'avoir des enfants soient hommes et femmes, tous les deux obligés de faire l'arbitrage, en se disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je choisis, moi ? Avoir le plaisir d'une vie de famille, ça veut dire que, effectivement, je vais devoir me consacrer du temps à avoir le plaisir de cette vie de famille. Mais en fait, l'homme a le plaisir de la vie de famille, mais ne doit pas arbitrer entre son travail professionnel et la famille. Lui, il a les deux. Tandis que la femme doit faire l'arbitrage pour arriver à mener les deux. Elle doit décider comment je vais arranger mon truc. Et vous connaissez ces fameuses crises au moment de la naissance d'un enfant, d'un deuxième enfant, etc., pour savoir comment on va se tirer d'affaire avec cette double tâche et cette préoccupation. Il n'y a que la femme qui l'a. Donc, je dis bien, c'est un point important par rapport à mon avis, par rapport aux théories de Lucie Rigaret, la différence, à mon avis, dans ce domaine dont nous discutons, je ne dis pas du point de vue éventuellement psychologique et autre, mais du point de vue du rapport travail, gratuit, travail payé, etc., la différence n'est pas une différence de sexe, mais liée au statut de la cohabitation et du mariage. Alors, l'interprétation de cet arbitrage se fait dans la société actuelle d'une manière très individualiste et très non-historique, si je puis ainsi m'exprimer. Individualiste, c'est-à-dire que la lecture que les femmes font de cette situation qui est une situation collective et sociale est une lecture individuelle. Ça, c'est un truc sur lequel il faut que nous travaillions. Parce que dans le monde, le progrès dans le monde syndical et dans le monde du travail, c'est fait à travers une lecture collective. On sait qu'il faut une réglementation de la durée du travail pour tout le monde, parce que sinon, le rapport entre le patron et le travailleur se fait au détriment du travailleur le plus faible. Donc, je dis bien, l'histoire syndicale nous montre que résoudre des problèmes sociaux se fait à travers une lecture collective. Et les femmes s'entêtent, si je puis ainsi dire, à avoir une lecture individualiste de ce problème qui est un problème collectif et social, puisque toutes les femmes en sont victimes, et victimes à peu près de la même manière, même si on se croit chacune très personnelle, au fond on fait toutes la même chose. Et alors vous entendez régulièrement, dans cette discussion de l'arbitrage, des femmes qui disent « oui, mais moi si ça m'arrange de prendre du travail à temps partiel ». Et alors commencez à réfuter à ce moment-là, à leur dire « mais si toi tu prends du travail à temps partiel, tu fais en sorte que tout le marché du travail des femmes va devenir mauvais ». Parce qu'on va donner du travail à temps partiel à toutes les femmes, et parce qu'on va dire, puisqu'il y en a X%, très peu, vous savez, parce que je viens de faire pour la Journée internationale des femmes distinguer le nombre, enfin, ce qu'est le travail à temps partiel demandé du travail imposé, distinguer les deux. En fait, la majorité est imposée, et il y en a quelques-unes qui continuent à dire très haut, mais si moi ça m'arrange, et au nom de ces quelques-unes qui disent, mais si moi ça m'arrange, on massacre le marché du travail de toutes les femmes. Donc là, c'est la perspective, la lecture individualiste d'un problème qui est social, qui est véritablement très dangereuse, en ce sens qu'elle affaiblit la condition des femmes d'une manière générale. Première chose, et deuxième aspect dans la lecture de cette inégalité dans l'utilisation du temps, c'est le fait qu'elle est tout à fait non historique. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le thème de la différence. La situation que nous vivons maintenant est une situation qui est le produit d'un rapport qu'on appelle maintenant le rapport de genre, utilisons-le, puisqu'il devient de plus en plus, comme vous avez eu le rapport de classe, le rapport, on ne dit plus le rapport de sexe, on dit le rapport de genre, c'est-à-dire une oppression collective de l'ensemble des hommes sur l'ensemble des femmes. Donc, ça veut dire qu'à travers le genre de société dans lequel nous vivons, il apparaît... L'ensemble des hommes peut se permettre d'attribuer son travail d'entretien personnel à l'ensemble des femmes, à travers une épouse particulière ou une cohabitante ou une concubine particulière, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit que c'est l'ensemble des hommes qui le fait. Ce n'est pas un mari en particulier qui est plus ou moins désagréable que les autres, c'est l'ensemble, c'est la collectivité des hommes. C'est donc le rapport de genre qui s'est installé, qui est un rapport historique. Et il faut que nous nous en convainquions, parce que si nous nous convainquions que c'est un rapport naturel ou que c'est une différence naturelle, nous n'allons pas avoir les moyens de lutter pour changer la situation. À partir du moment où nous voyons tous les éléments de la construction historique de ce rapport, eh bien nous pouvons évidemment penser à remonter le cours de l'histoire, à déconstruire l'histoire et à travailler autrement pour en sortir. Vous avez des choses tout à fait caractéristiques dans tous les domaines. Quand l'égalité s'installe quelque part, vous avez automatiquement une déconstruction de l'égalité. Par exemple, l'accès au travail des femmes, et pour le moment devient égalitaire, il y a automatiquement une déconstruction de l'égalité professionnelle qui se fait à travers l'installation du travail à temps partiel. Donc, et dans tous les domaines, c'est comme ça. Et nous avons une revendication très concrète en Belgique sur l'égalité en sécurité sociale. Et on nous dit déjà d'avance, si elle est comme ça, on va diminuer pour tout le monde, ça va être plus mauvais pour tout le monde, ou bien on va faire autre chose, ou bien on va dire aux hommes qu'ils peuvent faire ceci et qu'ils vont avoir des avantages complémentaires, etc. Donc on nous annonce déjà d'avance que si jamais on progresse vers l'égalité, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que cette construction est tout à fait historique et se reproduit tout le temps. Ce n'est pas un vieux truc qui date de Mathusalem et qui nous reste là de pas. Ça se reconstruit tout le temps. Et du, si vous pouvez dire que si l'ensemble de l'installation électroménager fait en sorte que nous pourrions avoir moins de travail ménager éventuellement, le progrès donc de la modernisation du ménage, mais vous pouvez être absolument certaine qu'on va nous demander d'avoir d'autres attentes par rapport au travail ménager, de telle sorte qu'il est plus long maintenant qu'au 19e siècle. C'est tout. Il est moins lourd, moins fatigant, parce que faire la lessive et mettre tout dans une machine, c'est moins dur que d'aller au lavoir avec tout son linge et de faire... des tas de choses, mais il est tout aussi long, parce que maintenant on doit s'occuper de la santé des enfants, des devoirs des enfants, des devoirs, ça prend des heures folles, au nom de quoi tout cet enseignement nous tombe dessus pour nous dire que nous devons nous occuper des devoirs des enfants, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est incroyable. Nous devons nous occuper des loisirs des enfants, plus les loisirs se développent, moins les femmes en ont, parce qu'elles doivent aller avec un ici, avec un autre là, avec un troisième là, et ici il faut laver des vêtements de football, là il faut laver des vêtements de ceci, et là il faut laver un troisième, et puis il faut acheter ça, et ça, et ça, un dîner pour finir, c'est simple, c'est la même chose pour toute la famille, mais les loisirs, c'est devenu tout à fait terrible, c'est différent pour chaque personne, donc ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, et la société, le développement de la société de loisirs est un, j'allais dire, est le prochain des pièges, enfin nous sommes déjà dedans, en fait, nous sommes déjà tombés dans ce piège. Alors en plus de ça, donc de cette interprétation individualiste et non historique de ces inégalités, l'idéologie dominante utilise ou peut-être nous oblige à penser comme ça, je n'en sais rien, mais de toute façon, ce que vous devez remarquer, c'est que cette interprétation individualiste et non historique déplace un conflit social en un conflit à l'intérieur de la maison et en un conflit entre deux personnes, qui est presque un conflit psychologique. Pour moi, c'est tout à fait extraordinaire de constater que quelque chose qui est de type tout à fait social, donc une oppression qui est de type tout à fait social, finit par être déplacé, par aller être un problème qui devrait se résoudre entre un mari et sa femme, mais tu ne fais rien à la maison, et dans des injures et des reproches, donc qui sont... La société peut se débarrasser d'une certaine façon de ce conflit qu'elle devrait normalement résoudre en termes politiques et sociaux, elle peut s'en débarrasser en le renvoyant à la maison. Et il y a des quantités de trucs pour ça. Hein. Quand vous, par exemple, dans le monde du travail, quand au lieu d'analyser des travailleurs tout simplement, je ne vois pas pourquoi on s'occupe du sexe du travailleur, c'est un travailleur, c'est un rapport avec un patron, donc le sexe n'a rien à voir. Mais immédiatement, les syndicats diront « Oui, mais c'est une chômeuse. Donc une chômeuse, c'est plus proche d'une femme au foyer. Donc une chômeuse qui est plus proche d'une femme au foyer, elle a peut-être moins besoin d'allocation. » Donc directement, on transforme un conflit qui est social, chômage, qui est de type vraiment tout à fait syndical, à la limite, le syndicat s'en débarrasse et nous l'envoie à la maison et il devient un conflit homme-femme. Est-ce que, oui ou non, j'ai droit à une allocation de chômage quand, après tout, je ne fais rien d'autre qu'une femme au foyer, etc. Est-ce que le mari peut à ce moment-là me dire, mais puisque tu es quand même en chômage, tu pourrais aussi bien faire ceci et faire ça, puisque tu es en chômage. Donc, c'est un problème qui est un problème de travail professionnel qui est déplacé à travers une interprétation sexuée du social. Et alors, vous avez aussi cette espèce de, si vous voulez, d'idéologie qui donne l'impression que la meilleure solution pour les femmes, comme je vous ai dit que l'arbitrage, il n'y avait que les femmes à le faire, eh bien, l'idéologie dominante nous dit la solution pour les femmes, c'est qu'elles aient le libre choix. Alors ça, c'est vraiment le sommet, n'est-ce pas ? C'est ce que doivent aménager... Pour le moment, en Belgique, c'est vraiment notre ministre du Travail, le dit très clairement, je vais vous citer un texte pour que vous le voyez, il dit, moi, je ne dois pas prendre position sur le type de couple, la décision des femmes, etc. Ce que je dois aménager, c'est qu'il y ait le libre choix. Mais vous savez ce que c'est que le libre choix chez des personnes qui sont inégales. Tout le monde sait quel est le résultat d'avance. Il n'y a aucune liberté là-dedans. Il y a un déterminisme absolu. Donc, du libre choix avec des inégaux, le déterminisme est régulier. C'est toujours celui qui est le plus faible qui prend pour lui la plus mauvaise solution. Donc ça, c'est un peu comme on dit, le libre choix, c'est des renards et des poules laissés libres ensemble dans un poulailler. On sait bien que ce n'est pas les poules qui mangeront les renards. Ça n'a jamais été comme ça, ça ne le sera jamais. Donc le libre choix est une tout à fait mauvaise idée et est une idée qu'il faut absolument combattre, mais il faut évidemment trouver des moyens. C'est très difficile à faire maintenant parce que nous sommes dans une période où les idées de liberté cachent beaucoup de... sont des caches-misères, en fait, très souvent. Mais notre ministre du Travail, à chacune de ses interventions, redit des choses comme ceci. Il ne s'agit pas d'imposer un mode de vie. Chacun fait les choix qui lui convient. Chaque famille est différente et les besoins de chacun évoluent différemment, ce qui fait opter pour l'instauration d'une palette de mesures la plus variée possible. Et il s'étonne après ça, non, il ne s'étonne pas, mais il s'étonne après ça que ce soit les femmes qui prennent les congés pour ceci et les femmes qui prennent les congés pour ça. Il dit, mais moi, j'ai dit que tout le monde pouvait, les hommes et les femmes pouvaient prendre les congés pour l'éducation des enfants. Il se fait que ce sont les femmes. Mais ça, nous le savions d'avance.
Merde, qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Tout recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Oh ben non.
Vous êtes sur 93.8 MHz, c'est la pleine lune sur Radio Zone, onde femme. Nous écoutons la conférence de Edwige Puymans-Poulet donnée dans le cadre du 4e colloque du Collège du Travail, le travail domestique et familial, quelle valorisation. Dans quelques instants, à la suite de cette conférence, restez à l'écoute sur 93.8 MHz, Radio Pleine Lune, onde femme, Radio Zone.